Et je remercie Seigneur que vous soyez là, ça a été tout un marathon pour arriver à l'église, n'est-ce pas? Gloire à Dieu pour votre présence. Je vous remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qu'on a déjà entendu, les témoignages, la table du Seigneur, les chants à la gloire de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse prier juste un instant pour se préparer pour la parole du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous humilions devant toi, pour que toi tu sois vu, que tu sois glorifié, que Jésus-Christ soit sanctifié dans tout notre être et que toute la gloire lui revienne. Merci parce que tu as promis que ta parole ne reviendrait pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Aussi nous te bénissons pour cela. Merci parce qu'elle est une lumière sur notre sentier et nous t'adorons ensemble ce matin, Seigneur, en esprit, en vérité. Gloire et louange te soient rendues au siècle des siècles. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, et nous continuons notre série sur les signes, les miracles que Jean, l'apôtre Jean, nous a transmis dans son Évangile. Alors, je vous invite à lire avec moi Jean, chapitre 6, et verset 14 au verset 22. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Alors, vous savez que nous sommes en train de regarder ensemble ce thème de l'année au travers de l'Évangile de Jean, connaître Jésus-Christ et le faire connaître, dont nous étudions l'Évangile de Jean dans nos différents groupes de maisons. Et si vous n'êtes pas encore inscrit dans un groupe de maison, ben je vous invite à le faire pour étudier la parole de Dieu et prier et se soutenir les uns les autres. Donc c'est le thème qu'on a regardé ensemble. Et connaître Jésus-Christ, on peut le connaître au travers des sept « Je suis » qu'on a déjà vu ensemble un dimanche. Jésus-Christ a dit « Je suis le pain de vie, la lumière du monde, la porte des brebis, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie et le vrai cep ». Il y a sept « je suis », « ego eimi », « moi je suis ». C'est ça que Jésus proclame. Et même dans le texte que nous avons lu ici, lorsqu'il dit, leur dit aux disciples « c'est moi, n'ayez pas peur », il est en train de dire « je suis ». Dans l'original ici, c'est écrit « je suis ». C'est son identité, « je suis ». Le faire connaître. En fait, Jésus, dans les Écritures, il est écrit, a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le cœur de l'évangéliste, c'est qu'on reconnaisse que Jésus-Christ est Dieu, et qu'en croyant en lui, on ait la vie. Et tous les signes, les miracles qui sont donnés dans l'évangile de Jean ont pour ce but. Dans les quatre évangiles, il y a en fait 35 miracles qui sont cités. Jean en a choisi sept, et le mot miracle peut être traduit aussi par signe. Et le but, c'est qu'on regarde plus à la signification du miracle qu'au miracle lui-même. Il y a un danger parfois de s'appuyer plus sur les miracles que sur Jésus lui-même. Et en fait, le but du miracle, c'est de montrer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans l'évangile, il y a la révélation progressive de Jésus-Christ qui s'exprime, et de même, il y a la foi progressive des disciples dont la foi s'affermit donc de plus en plus. mais il y a aussi l'incrédulité grandissante qui va mener finalement à la condamnation et à la crucifixion de Jésus-Christ. Une façon de faire connaître Jésus-Christ, c'est de partager les miracles que l'on trouve dans l'évangile de Jean. Il y a 7 signes ou 7 miracles. Il y a le changement de l'eau en vin à Cana, la guérison du fils de l'officier du roi à Capernaum, on a déjà vu cela, la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda à Jérusalem, on a vu l'autre dimanche la multiplication des pains pour nourrir les 5000 hommes, et puis nous allons regarder ensemble ce matin Jésus qui marche sur les eaux, et plus tard on regardera l'aveugle-né à Jérusalem qui est guéri, et puis la résurrection de Lazare à Béthanie. Si vous avez été attentif au texte, en fait, il y a plusieurs miracles dans ce texte. Premièrement, Jésus marche sur les eaux. Deuxièmement, il apaise la tempête. Troisièmement, ce n'est pas écrit dans l'évangile de Jean, mais ça se trouve en Matthieu, Pierre marche sur les eaux. Ce n'est pas un miracle cela ? Et quatrièmement, à partir du moment où Jésus monte dans la barque, immédiatement la barque se trouve à l'endroit où les disciples devaient aller. Donc en fait, lorsqu'on dit que Jésus marche sur les eaux dans ce récit, il y a en fait 4 miracles. Ce matin, c'est ce que nous allons regarder ensemble, ce texte qui a évidemment une signification particulière pour nous les enfants de Dieu, mais aussi pour ceux qui auraient besoin de croire que Jésus-Christ est Dieu. Alors on doit regarder tout d'abord, pour comprendre pleinement la signification de ce texte, le contexte de ce passage. Au verset 14, je vous l'ai lu, il est écrit « Ces gens ayant vu le miracle, quel miracle ? La multiplication des pains et des poissons. Jésus a nourri toute une foule avec 5 pains et 2 poissons. » Et on a déjà vu ensemble que lorsqu'on donne le peu qu'on a, Jésus peut en faire des miracles dans la mesure où on consacre tout ce que l'on possède, qui en fait est rien. Mais Dieu peut le multiplier à sa gloire, parce que Jésus-Christ veut se glorifier. Et ainsi, il a nourri toute une foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes à l'époque, c'était une foule énorme. Jésus les fait asseoir comme un bon berger, il les fait asseoir, il les nourrit dans les verts pâturages, littéralement on va dire, et il les nourrit, et puis finalement les disciples sont surpris de voir cette multiplication, ils distribuent au travers des paniers, il ne manque jamais ce qu'il faut à la foule. Et ça montre que Jésus est abondant et ce miracle montre sa puissance et la multiplication, n'est-ce pas, de ce qu'il peut faire. Mais il y a les disciples qui commence à comprendre le ministère de Jésus, il y a la foule. Qu'est-ce que vit la foule ? La foule est d'abord sous le joug des pharisiens, des gens religieux. Et la foule est aussi sous le joug des Romains. Et ils ont entendu parler du prophète qui devait venir. On l'a déjà vu ensemble, ce Messie, le Meshayak de l'Ancien Testament, qui devient le Christos, loin du Nouveau Testament. Et ils trouvent en Jésus celui qui a la puissance. Mais ils sont plus impressionnés encore par le miracle que par le vrai ministère de Jésus. Jésus-Christ est descendu du ciel pour s'incarner et il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes jusqu'à la croix. Jésus-Christ savait qu'il ne pouvait pas échapper à la croix. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé en Matthieu chapitre 4 lorsqu'il a été tenté par le diable ? Le diable a voulu détourner Jésus de sa vocation, enlever la dépendance qu'il avait avec Dieu le Père pour lui présenter les royaumes comme si ça lui appartenait, pour essayer de détourner Jésus de sa vocation. Et c'est exactement ce que veut faire la foule. Lorsqu'il est écrit ici, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, Jésus se retira de nouveau. Le mot « enlever » ici est un mot qui est dans l'original très violent en fait. Il y a l'idée presque de le kidnapper, de l'enlever de force. En fait, la foule, quelque part, était devenue comme saisie d'une certaine folie en voyant ces miracles, ces guérisons. Ils espéraient voir en Jésus le libérateur du joug romain et certainement aussi, vraisemblablement, le libérateur des pharisiens religieux qui étaient liés, n'est-ce pas, avec le pouvoir romain. Si Jésus avait accepté d'être roi, il serait devenu le chef d'un groupe rebelle. Et les Romains auraient réagi immédiatement pour les écraser, car le pouvoir politique était en jeu, lié avec les Romains et les pharisiens. Mais Jésus ne voulait pas devenir roi de lui-même. Jésus savait qu'avant, il devait passer par la croix, et en refusant d'être élevé roi à cet instant, et de céder à la tentation que déjà le diable lui avait donnée à Matthieu chapitre 4, il voulait clairement affirmer sa vocation de dépendre de Dieu le Père. Vous savez, dans nos vies, il y a parfois des tentations qui peuvent nous détourner de la vocation de la vie chrétienne et du plan de Dieu pour nous. Et Dieu nous demande humblement de nous réfugier en lui, comme Jésus se mit à l'écart sur la montagne et priait lui seul devant Dieu le Père, afin de refuser les tentations que le monde veut nous donner. Parce que souvent, le monde offre des tentations qui sont liées à l'esprit de ce monde, qui est le diable, afin de ne pas céder à la tentation du péché de ce monde et du diable lui-même. Dieu nous invite à nous mettre à part et à prier afin de rester humbles dans la vocation que Dieu a suscitée et veut pour nous. Alors Jésus a refusé d'être roi. Imaginez les disciples maintenant, parce qu'eux-mêmes ont fait partie de cette foule, eux-mêmes vivaient les mêmes choses. Ils étaient sous le joug romain et sous l'emprise religieuse de ces pharisiens, très religieux, mais souvent injustes. Quelque part, il y a une déception qui est née. Mais Jésus, par ce miracle, suite à un miracle extraordinaire de la multiplication des pains, veut leur montrer qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il refuse d'être élevé un roi de façon humaine, mais il veut être élevé comme un roi de la façon divine, selon le plan de Dieu le Père. Mais il veut encourager ses disciples. Oui, je suis le Fils de Dieu. Oui, je suis le roi des rois. Oui, je suis le Seigneur des seigneurs. Ils ne le savent pas encore. Mais il va leur demander d'entrer dans une barque et de voyager jusqu'à l'autre bord. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, ce miracle qui est mentionné ici, que Jésus a fait parce que les disciples avaient besoin quelque part encore plus de voir et de réaliser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je pense que dans notre vie, nous qui voulons connaître Dieu, nous rapprocher de Dieu, nous avons besoin aussi d'apprendre et de demander à Jésus de se révéler à nous pour le connaître, l'aimer, le chérir, le servir. Alors, on va faire juste un petit peu de géographie. Ah, c'est intéressant, ça. Ici, c'est la Palestine-Israël du temps de Jésus. Alors, j'ai un petit point ici, voilà. Alors, Jésus a eu beaucoup de ministères, a fait beaucoup de miracles ici. Alors, on le voit peut-être mal, mais c'est la Galilée. Alors, il y a les noces de Cana ici. Ici, c'est la mer de Galilée ou la mer de Tibériade ou le lac de Génézareth. On va regarder cela ensemble. Alors, le lac, je vais peut-être passer l'autre diapo. En fait, le lac faisait environ 20 km de l'entrée de l'eau ici, le Jourdain, jusqu'à sa sortie ici, dans sa longueur, 20 km, et dans sa plus grande largeur ici, de Magdala, jusqu'à ce point-là, à peu près 12 kilomètres. Maintenant, il est écrit dans le texte ici, si vous l'avez lu attentivement, qu'ils avaient ramé environ 25 ou 30 stades. Avec des passages parallèles, on voit à peu près que leur épreuve a duré 9 heures. En fait, on a toujours tendance à penser, quand on lit ce passage, vu qu'ils devaient passer de l'autre bord, qu'ils ont carrément traversé tout le lac, d'un point ici ou de là à là. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Et j'ai fait une petite recherche parce que ça m'a toujours intrigué. En fait, où se situait le miracle de la multiplication des pains? Le miracle de la multiplication des pains se situait ici à Bethsaïda. Voilà, c'est là où Jésus a multiplié les pains, a nourri la foule. Et il est écrit ici au verset 17... Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer. On a l'idée de penser qu'ils doivent traverser de part en part la mer de Galilée. Ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Où se situe Capernaum? Capernaum se situe ici, Alors j'ai fait une échelle de rapport parce que j'aime bien calculer les choses et je me suis aperçu finalement qu'entre Bethsaïda et Capernaum, dans cette échelle de rapport de cartes, il y a environ 5,2 kilomètres. Or il est écrit qu'ils ont ramé, pour ne pas dire pédalé parce que c'était à contrevent, à peu près de 25 à 30 stades, 4,5 kilomètres à 5,5 kilomètres. Qu'est-ce que ça va nous apprendre cela? Mais qu'ils ont ramé pratiquement la distance qu'ils devaient faire, mais qu'ils n'étaient pas arrivés jusqu'au bout. Ça vous est jamais arrivé d'avoir fait tous vos efforts pour essayer d'accomplir la volonté de Dieu? Vous êtes tout proche, mais ça ne marche pas. Et vous êtes fatigué, le vent était contraire, et pourtant vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu, et ça ne marche pas, parce qu'il faut encore que Jésus-Christ intervienne. On le regardera un petit peu plus loin. Mais j'aimerais vous parler, parce qu'il y a une leçon spirituelle à tirer de Capernaum, excusez pour cette introduction un petit peu longue, mais des fois c'est bien de faire la théologie des lieux géographiques. Capernaum signifie en fait « village de la consolation ». Et Jésus a fait des miracles extraordinaires dans cette ville. On pense que cette ville, au maximum, dans les premiers siècles, a eu à peu près 1000 habitants. Du temps de Jésus, il faut comprendre que les villes et les villages n'étaient pas habités, n'est-ce pas, comme aujourd'hui, on a des milliers d'habitants, des dizaines de milliers d'habitants et parfois des centaines de milliers d'habitants dans les villes. Alors, cette ville, on l'a située ici, c'est au nord-ouest du lac de Galilée. C'était un port de pêche, un port de commerce, important et prospère. Alors, cette ville abritait des païens et des juifs. Il y avait une garnison de soldats romains. D'ailleurs, si je passe à la prochaine diapo, on voit les restes ici, après les siècles, de la ville de Capernaum, qui montre qu'il y avait une activité romaine, vu la construction. Il y avait des thermes, des entrepôts, il y avait toute une infrastructure sociale par des bâtiments publics bien conçus. En fait, il y a eu de nombreux miracles dans cette ville de Capernaum. Jésus, il est écrit, se rendit à Capernaum et en fit fréquemment son quartier général parce que cette ville fut appelée sa ville. Jésus avait fait de Capernaum les headquarters, si vous voulez, le siège social, si je peux m'exprimer ainsi, de son entreprise. C'est là qu'il guérit de la paralysie le serviteur du centenier. C'est là qu'il guérit la mère de Pierre, qui était fiévreuse. C'est là qu'il guérit aussi un démoniaque, qui le libère. C'est là qu'il délivre un paralytique, qui guérit un paralytique porté par quatre hommes. C'est là qu'il guérit le fils d'un officier royal. Et c'est là aussi, dans un texte qui est écrit, qu'il a fait de grands miracles. En fait, Jésus aussi, on le regardera plus tard, je suppose, à partir du verset 22, c'est là, dans la synagogue de Capernaum, qu'il enseigne toute la vérité sur le pain de vie qu'il est, Jésus-Christ, le pain de vie qui est descendu du ciel. En fait, Capernaum est devenu un centre de profonde bénédiction donnée par Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus-Christ a dit ceci, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Jésus-Christ a maudit cette ville un jour. Pourquoi ? Parce que c'est une ville qui, malgré les bénédictions de Dieu, a résisté à Dieu et à la visitation du Saint-Esprit. Et c'est en 748 après Jésus-Christ qu'il y a eu un grand tremblement de terre qui mit fin à la ville et constitua en même temps l'accomplissement de cette parole de Jésus-Christ. « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. » Dieu visite des pays, Dieu visite des individus. Mais à un moment donné, lorsqu'il y a résistance, malgré les miracles de Dieu et sa bénédiction, s'en vient le jugement. Et Capernaum est le type, même si c'est un lieu géographique, d'un lieu visité par Dieu qui résiste et qui finalement est jugé. Et cela fait penser à ce monde dans lequel nous vivons, qui est souvent visité par la miséricorde, la bonté, la providence de Dieu, et qui résiste malgré la visite de Dieu, sa provision et sa bénédiction. Nous devons prier, frères et sœurs, qu'autour de nous, les gens s'attendrissent et connaissent Jésus-Christ comme Sauveur. Nous allons, pour la suite de cette prédication exposée, regarder ensemble les textes parallèles. J'espère que vous pouvez les lire et les voir ici, devant, sur l'écran. La différence entre les textes de Matthieu et de Jean. Nous allons commencer à lire, je vais lire l'évangile de Jean, et vous, vous allez lire en même temps, si vous voulez bien, je vous donne cet exercice ce matin, à regarder le texte de Matthieu. Ça va? On y va? On y va? Oui? On y va. J'espère que votre oui, là. Hein? Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. En fait, dans l'évangile de Matthieu, que vous avez lu, il est écrit que c'est Jésus qui obligea les disciples à monter dans la barque. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Une tempête. Quelque chose qui va les apeurer. Une circonstance qui semble vraiment les mettre dans une position où ils peuvent se dire, mais où est Jésus? Est-ce que ce n'est pas Jésus qui nous a obligés à monter dans la barque, et nous a dit, allez passer de l'autre côté, allez à Capernaum? J'aimerais vous faire cette première remarque, et j'ai une 14 à peu près applications dans ce texte qu'on va voir ce matin. C'est que la première remarque que je veux faire, malgré la bénédiction de Dieu dans nos vies, parce qu'attendez, ils viennent de voir un miracle extraordinaire, un miracle, la multiplication des pains. Malgré la bénédiction de Dieu, le croyant peut être exposé à des épreuves dans sa vie. Et parfois, Dieu permet des épreuves pour tester notre foi. La bénédiction de Dieu n'exclut pas le test de la foi dans nos vies. Et c'est peut-être parce que Dieu va nous tester que nous allons encore être plus bénis. La Bible dit en Jacques, « Regardez mes frères comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Car la preuve, c'est le test de la foi. Dieu permet qu'on ait des épreuves pour nous tester dans notre foi, afin certainement que nous puissions nous attacher encore plus au Seigneur. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de louer le Seigneur, même quand ça va mal? Je me souviens d'un homme chrétien, un couple qui ont prié pour leur fille. Un couple né de nouveau, qui ont vu leur fille partir loin de la maison, dilapider les biens spirituels, n'étant pas elle-même régénérée, elle a commencé à aller dans les bois de nuit et à faire des choses terribles, n'est-ce pas? Et ils ont quand même prié, puis même loué Dieu pour leur fille. Elle s'est convertie. Elle est sortie de cette vie de débauche. Chaque épreuve est permise par Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à accepter l'épreuve? Nous préférons évidemment la joie de sa bénédiction, le sentiment de sa présence et de son amour, mais Dieu les laisse là un instant, comme si Jésus n'était pas encore là, comme si Jésus ne les avait pas encore rejoints. Alors ces gens qui parlent, les gens faisaient partie de l'équipe ici, des marins qui étaient dans cette barque. Si vous regardez, donc, c'est Jésus qui oblige les disciples à monter dans la barque. Une deuxième réflexion, ce n'est pas parce qu'on est dans la volonté de Dieu que Dieu ne permet pas des épreuves. Dieu permet des épreuves après de grandes bénédictions, et puis il peut nous conduire dans un endroit qui peut devenir apparemment un désert, et qui pourtant est sa volonté. Ce n'est pas parce qu'on est dans la volonté de Dieu qu'il n'y aura pas des obstacles à franchir. Quelqu'un a dit, ne remettez pas en cause les jours de ténèbres, ce que Dieu vous a montré dans la lumière. Dieu met fin à tout tunnel. Et s'il nous dit, voici, marchez-y, voici le chemin, même s'il met et permet des obstacles dans notre chemin, Dieu va nous permettre d'aller jusqu'au bout, parce que c'est lui qui le permet. S'il nous a montré clairement sa volonté, il va nous permettre d'aller jusqu'au bout et d'accomplir sa volonté dans nos vies. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la volonté de Dieu que Dieu va enlever systématiquement tous les obstacles, et même il permet des obstacles dans l'accomplissement de sa volonté, parce qu'il veut accomplir aussi une œuvre dans nos cœurs. Et puis on apprend aussi que Jésus était seul à l'écart. C'est une autre application et vérité à saisir, c'est que sachons que Jésus prie. Jésus intercède pour nous. Jésus est l'intercesseur qui prie pour nous constamment. Je vous lis un des passages qui affirme cela, par exemple en Hébreux chapitre 7 et verset 27. Bon, verset 26 pour le contexte. « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme des souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Jésus-Christ, notre intercesseur, nous avons un avocat auprès du Père. L'avocat se tient auprès de nous et l'avocat se tient auprès du Père en train de plaider en notre faveur. Jésus-Christ prie pour nous. Un jour, alors que j'étais jeune croyant, quelqu'un est venu me dire dans l'église que je fréquentais, « Sais-tu que Jésus-Christ prie pour toi ?» Je n'avais pas compris cela jusqu'à ce moment-là. Et j'ai regardé, j'ai étudié dans la Bible, et j'ai découvert, Christ ressuscité continue de prier pour moi. Et même, je vais vous dire, dans les Écritures, on voit que c'est un des plus grands ministères de Jésus, ressuscité, l'intercession pour ses enfants. Pouvez-vous douter, pouvons-nous douter que Dieu nous aime? Une des plus grandes activités de Jésus, son Fils, c'est d'intercéder pour moi, d'intercéder pour vous, parce qu'il vous aime. Il prend soin de vous. Au moment où il sait que vous allez traverser une épreuve qu'il permet, parce que c'est lui qui avait obligé les disciples à monter dans la barque, il est en train d'intercéder. Certainement pour résister à la tentation de devenir roi d'un point de vue humain, mais aussi il a en vue tout ce qui se passe sur la mer. Jésus sait tout. Il est omniprésent. Et il sait déjà lorsqu'il prie sur la montagne ce qui va se passer avec les disciples. La mer de Galilée est parfois exposée à des vents impétueux, de très grandes forces qui soulèvent des vagues, des lames de fond. Et c'était très dangereux de se trouver sur une petite barque sur la mer de Galilée. Il savait tout cela, mais malgré cela, il l'a permis. Un autre texte ici en Jean, il est écrit « Soufflait un grand vent et la mer était agitée ». En fait, le vent était contraire. Ça vous est jamais arrivé de vouloir aller dans la direction de Dieu, de penser que Dieu vous a montré la direction et vous ramez dans le sens d'aller dans la bonne direction et le vent est contraire. Il semble que tout s'oppose à ce que vous êtes en train de vouloir faire pour Dieu. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu? Non. Ça veut dire que Dieu peut permettre parfois un obstacle afin d'éprouver notre foi, mais lui va intervenir si nous le croyons. Je crois qu'il y a un piège dans nos vies, frères et sœurs. C'est que quand Dieu nous montre sa volonté, on est là et on va dans cette volonté et on pense que tout va se marcher, n'est-ce pas, comme sur des roulettes. Mais non seulement on a besoin de la présence de Dieu pour savoir dans quelle direction aller, mais on a besoin de la présence de Dieu et son intervention pour rester dépendant de lui alors que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Pour il veut nous montrer que tout dépend de lui. De même que lui a dépendu de Dieu le Père en toutes choses, il veut nous montrer qu'on doit dépendre de lui. Alors vous savez, quand on est dans la volonté de Dieu, que Dieu nous donne un plan, on a un objectif à atteindre. Et Dieu va le permettre. Je vais vous donner une petite anecdote, ça me vient à l'esprit, mais pourquoi pas. Nous avons les flyers ce matin pour notre concert. Mais savez-vous que j'ai dû me battre au téléphone pour qu'ils soient aujourd'hui dans l'église? Le transporteur qui aurait dû les amener ici attendait le téléphone de l'imprimeur, alors que l'imprimeur sur le paquet avait mis le numéro de téléphone de l'église pour prendre un rendez-vous. Et on attendait, et les flyers n'arrivaient pas, il a fallu se battre, téléphoner, etc. Et voilà, c'est une anecdote, mais il faut persévérer, il faut se battre parfois, puis prier. Puis Dieu accomplit son œuvre. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné un objectif que pour l'atteindre, il n'y aura pas des obstacles à franchir. Un autre texte ici, donc, pour comparer Jean et Matthieu, lisez Matthieu. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer, s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » En fait, si on réalise, Jésus est en train de marcher sur les eaux qui sont l'objet de la peur des disciples. Ils ont une double peur, c'est incroyable. Ils ont la peur des flots parce qu'ils sont marins, ils savent ce que ça veut dire éventuellement. Et puis tout d'un coup, ils voient Jésus marcher sur les eaux. Quelle est une des plus grandes craintes des marins? Les fantômes. L'apparition de fantômes. Et quand ils voient Jésus marcher, ils s'imaginent quelque chose. En fait, Jésus est en train de marcher sur les eaux qui sont l'objet de la crainte, de la peur des disciples. Nous ne sommes pas habitués à voir Jésus parfois intervenir dans nos vies. Mais Jésus, lorsqu'il intervient, il intervient de façon inattendue et de façon surnaturelle. Et ce n'est pas étonnant qu'on puisse lui faire confiance, parce qu'il est Dieu. Et s'il agit de façon surnaturelle, au moment où on est dans l'impasse, au moment où on ne sait plus sur quoi, vers qui se tourner, quoi faire, c'est là où Jésus peut intervenir. Et c'est vrai que parfois il nous surprend. Mais si nos yeux sont spirituels et nous comprenons la façon vers laquelle Dieu agit, on est émerveillé. Et au lieu de se plaindre, au lieu de murmurer et de devenir défaitiste et de se déprimer, on dit « Jésus est là ». Parce qu'on le reconnaît. Bien sûr que ça prend des yeux spirituels, un cœur spirituel. Mais si vous avez Jésus comme berger, si vous avez Dieu comme père, pouvez-vous imaginer un instant que Dieu vous abandonne, qu'il lâche sa main de votre main? Jamais. Nul ne les ravira de ma main. Dieu vous tient en Jésus-Christ et c'est éternel. Et personne ne peut vous ravir de sa main parce qu'il l'a promis, parce qu'il est Dieu, qu'il est devenu notre père. C'est merveilleux cela. Nous pouvons avoir une relation avec Dieu, notre père, comme un petit enfant. Vous savez, un petit enfant dans le vide, là, dans le noir, vous êtes à la cave, il dit « Saute, papa est là !» Il saute, il a confiance, parce qu'il a tant la voix d'un père aimant, il a confiance. Et parfois, Dieu nous demande des pas de la foi, et nous faisons ça, nous reculons, nous marchons. Est-ce que nous avons vraiment confiance en Dieu? Pourtant, Dieu est là, et Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est au sein de nos tempêtes. Vous avez peut-être une tempête ce matin à traverser, quelque chose de difficile, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui n'arrête pas de souffler dans les voiles de votre vie, et vous demandez si ça ne va pas vous entraîner vers quelque naufrage de la vie. Mais Jésus est là. Il saura apaiser votre tempête. Il saura vous conduire jusqu'à l'autre bord. Et pour nous, les enfants de Dieu, c'est qu'un jour, on sera avec lui dans le ciel. Et cette espérance est vivante en nous. Oui, nous serons au ciel, nous qui connaissons le Seigneur. Mais en attendant sur la terre, il se peut que nous devions faire face à quelques tempêtes et que nous ayons des craintes, des peurs, des doutes. Mais le Seigneur est là. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement, dit le psalmiste à propos du juste. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. D'ailleurs, les eaux, dans l'Apocalypse et dans d'autres passages, parle souvent les eaux de ce monde comme agitées de ce monde, de la puissance de ce monde et tout ce que le monde peut faire, même contre les enfants de Dieu, voire la persécution. Mais au sein de l'épreuve, et c'est la septième application, Jésus est là et dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, c'est moi, je suis, c'est sa carte d'identité, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, le pain de vie, etc. » Je suis celui qui est présent au moment de l'épreuve. Retenez cela. Il y a un autre « je suis » dans l'évangile des Jean. Je suis celui qui est présent au sein de l'épreuve de mes enfants. Et donc, il nous rassure de sa présence. Vous savez, il y a des moments dans la vie où, après avoir cherché quelques consolations d'une manière ou d'une autre, et on est fait comme ça, on est humain, la seule consolation qui nous console vraiment, c'est la présence de Dieu. On s'agite, on rame fort contre des vents contraires, on se fatigue de ramer, on s'épuise. Mais la seule façon de trouver secours, de trouver réconfort, c'est sa présence. Une heure dans ta présence vaut mieux que mille jours ailleurs. C'est pour ça que c'est tellement important, frères et sœurs, de lire la parole tous les jours, de prier tous les jours, de dépendre de Dieu jour après jour. Une communion intime avec lui. Et puis nous lisons en Matthieu, et là je ne peux pas lire l'évangile de Jean, puisque Jean n'a pas trouvé bon de nous citer le cas de Pierre, mais écoutez, puisqu'on regarde le texte parallèle, on va étudier un petit peu le cas de Pierre. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Ah, Pierre, un apôtre impulsif, c'est le type sanguin à 100%. « Seigneur, j'y vais si c'est toi. » Remarquez que c'est le seul qui a essayé, hein. Et il y en a comme ça dans l'Église, c'est les francs-tireurs, ceux qui sont toujours en avant et qui foncent, n'est-ce pas? Mais on sait que Pierre a connu une leçon très pénible. Un jour, le coq a chanté trois fois. Il a renié son sauveur, mais après il a été prompt à se repentir. le Seigneur l'a remis sur la voie du ministère. M'aimes-tu, Pierre ? Il a dit, oui, mais Seigneur, je t'aime de mes forces. Et Jésus lui disait, m'aimes-tu d'un amour agapé, de l'amour divin ? Et Pierre pouvait que dire, mais je t'aime de mon amour à moi, jusqu'à ce que l'amour de Christ le remplisse pour être prêt à être crucifié, la tête en bas, mourir martyr pour son sauveur, parce que rempli de la puissance de Dieu. Pierre était celui qui allait de l'avant. Il dit, viens ! Pierre sortait, alors Jésus dit, viens. Et parfois, Dieu nous conduit dans les chemins de la foi, où on ne sait pas où mettre les pieds, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Viens. Alors, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Je ne sais pas, il faudrait faire un film là-dessus. Imaginez quelqu'un qui sort d'une barque, il met un pied, oh, ça tient, il commence, un deuxième pied, un troisième pied. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. C'est exactement ce qui nous arrive, frères et sœurs. Quand on a les yeux fixés sur le Seigneur, il nous sort de nos circonstances éprouvantes et on a la paix de Dieu. Il semble que c'est le ciel sur la terre. On a fait un premier pas, on est sorti de la barque. Tant que nos yeux sont fixés sur le Seigneur, c'est le miracle, c'est le surnaturel. Si les eaux débordent, ils ne nous atteignent pas. Mais à partir du moment où on regarde là où on se trouve autour de soi et les vents contraires et on oublie de regarder au Seigneur par la foi, glou, 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 on commence à s'enfoncer. Et je pense que Pierre, il a eu vraiment la peur de sa vie, là. Et aussitôt, qu'est-ce que j'aime? Vous savez, il y a des petits mots dans la Bible qui sont quand même des mots-clés. Aussitôt, Jésus étendit la main. Pierre lui dit, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main. Il y a un moment où Dieu nous prend vraiment par la main pour nous sortir de l'épreuve de la foi. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Un reproche d'un manque de foi. La question ici, c'est est-ce que nous sommes prêts à vivre par la foi, à faire ce pas en quelque sorte dans le vide, tout en croyant qu'il nous garde, soutient, même si c'était un terrain surnaturel. Je me souviens quand mon épouse et moi, notre premier ministère à Québec, exactement à Beauport, une banlieue de la ville de Québec, qui était proche, collée à la ville de Québec, nous sommes entrés dans le ministère avec 23 cents dans notre compte en banque, et l'Église pouvait nous payer pour 3 mois sans savoir par la suite comment ça se passerait. Et Dieu a permis qu'on soit là. Après 3 mois, l'Église a continué à nous donner un salaire. Et quand nous avons quitté l'Église, il y avait une église de 900 mètres carrés, évaluée à plus $1 million, pratiquement payée, tout ça parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas pour notre gloire, hein, je vous rassure, de suite. Hein, parce que Dieu a promis de faire les choses. Et parfois, il nous éprouve. Vous savez, je le cite souvent, mais quand Saint-Laurent a donné le peu qu'il avait, qui lui restait, qui était le tout qui lui restait, Dieu a fait de lui un homme de Dieu. Tout à l'heure, on a lu, cherchez d'abord le royaume de Dieu, puis ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Là aussi, dans le même matériel, des pas de la foi guidés par Dieu. Ce n'est pas la présomption, amène la bénédiction de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dieu nous demande de vivre par la foi. Peu importe qui nous sommes ce matin, qui que vous soyez, vous êtes en face d'un pas de la foi à accomplir. C'est obligé parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Il vous a obligé d'entrer dans la barque pour passer de l'autre bord et c'est lui qui va vous amener dans des épreuves qui permet dans votre vie. Et là où il va tester votre foi, et peut-être parfois il va vous dire, un tel, personne de peu de foi. Nous connaissons que l'incrédulité est un péché chez le croyant qui n'est pas souvent mentionné. Et pourtant c'est un vrai péché. Le manque de foi est un péché dans nos vies. Et nous devons nous en repentir, parce que nous manquons de foi, de confiance en Dieu, malgré tout. C'est pour ça que c'est bien d'écrire sur un carnet. Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune croyant. Ça m'avait beaucoup aidé de marquer tout ce que Dieu faisait dans ma vie. Et dans les moments difficiles, de tourner le carnet et de dire, ah oui, c'est vrai, Dieu a fait ça. Ah oui, Dieu avait fait ça dans ma vie. Et de se réjouir dans les moments difficiles, de ne pas oublier tout ce que Dieu fait et a fait, parce qu'il va encore faire des choses. Dieu ne vous abandonnera pas. Ne promène pas des regards inquiets, toi que j'ai appelé des extrémités de la terre. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle merveilleuse promesse. Pierre, les yeux fixés sur Jésus, marche sur les eaux par la puissance du Fils de Dieu. Quand Christ nous appelle lui-même sur le terrain du surnaturel, selon sa volonté, marchons par la foi, même si c'est de marcher sur les eaux agitées de ce monde. Et puis, voyant Pierre que le vent était fort, prend peur, s'enfonce et crie au Seigneur. Tant que Pierre avait les yeux rivés sur Christ, ne voyant que lui, il vivait surnaturellement, il était capable de marcher sur les eaux. Un croyant qui ne garde pas ses yeux fixés sur Jésus coule. La peur, c'est de regarder ailleurs que sur Jésus. Le monde qui nous entoure est une mer houleuse. Seule la foi nous donne la puissance de marcher sur les eaux du monde. Je me souviens, j'ai envie de vous donner cette anecdote. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un pays nordique où il fait très froid, comme nous avons vécu, Louis et moi, à Québec. Et il y a un danger vraiment pour les conducteurs. C'est la première neige. Parce qu'on passe de l'été où on va vite, n'est-ce pas, l'asphalte est sèche, on est habitué, il pleut de temps en temps. Enfin, au Québec, il mouille plutôt, excusez. Mais quand il neige, ça commence à être dangereux. La première neige est la plus dangereuse parce qu'on a oublié les réflexes d'une conduite de 6 à 8 mois sur la neige. C'est quand même long, on a le temps d'apprendre. Il y a tout un tas de réflexes à avoir, sinon vous allez dans le fossé, vous faites toutes sortes de dérapages incontrôlés. Enfin, c'est amusant un certain temps quand on débute, mais il faut être prudent. Et je me souviens, le temps de cette première neige, être sorti, si vous voulez, d'une rocade, et donc de prendre une sortie pour rejoindre l'église. Et là, j'ai compris que j'allais trop vite. Comme on dit à Québec, j'avais le pied pesant. Et j'ai vu la voiture, et je savais qu'il y avait vraiment un dénivelé très important. Pas un abîme à pic, mais un grand fossé, là, énorme, de plusieurs dizaines de mètres. Et là, j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, ça a pris juste un mot, hein, mais il a entendu. Et la voiture a commencé à déraper, puis a cogné contre le rebord de la route et m'a remis sur la route. Alors, vous avez peut-être, vous aussi, parfois, eu besoin de crier vers Dieu parce que vous faites des dérapages dans la vie, incontrôlés, par excès de vitesse ou par erreur. Puis vous avez crié vers Dieu et Dieu est intervenu. Parfois, il intervient, même s'il n'y a pas une erreur, juste dans une circonstance particulière. Mais Dieu entend les cris de ses enfants. N'oublions pas cela. Et puis, ensuite, il est écrit qu'il voulait donc le prendre dans la barque. En fait, Jésus monte dans la barque. Et si vous lisez en Matthieu, il est écrit que les disciples se prosternèrent devant lui. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Une des conséquences de l'épreuve dans nos vies, et celle-ci, c'est qu'on est amené à adorer Dieu, à le louer d'une façon extraordinaire. Jésus a la puissance d'apaiser nos tempêtes. L'Éternel est ma force, disait le psalmiste, mon bouclier, en lui je me confie. Il vient à mon secours. Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. En fait, c'est quand nous sommes éprouvés que nous laissons Dieu intervenir dans notre vie que nous connaissons Jésus-Christ et que nous pouvons l'adorer. Vous n'êtes jamais passé par une épreuve et seul Dieu a pu faire la différence et vous vous êtes agenouillé au pied de votre lit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous avez loué Dieu avec un esprit nouveau parce que vous avez vu Dieu intervenir. Pour conclure, j'aimerais vous dire ceci. Si vous remarquez bien, dans ce texte ici, suivant, c'est qu'en fait, les disciples sont arrivés de l'autre bord. Jésus les a amenés vraiment de l'autre bord. Le quatrième aspect de ce miracle, c'est que quand il est monté dans la barque, immédiatement, la barque est arrivée à Capernaum, au lieu où devaient aller les disciples. Dieu a permis que les disciples rament, soient éprouvés, le vent était contraire, la tempête était forte, Jésus a apaisé la tempête, Jésus est monté dans la barque, et puis quand Jésus est là, ça va mieux. Hein? Ils sont arrivés directement à l'endroit où Jésus les avait envoyés. Jésus a toute la puissance de nous amener là où il veut nous amener. Il nous fait voir sa gloire dans l'épreuve, et même plus, il nous fait voir sa gloire ensuite, suite à l'épreuve. Il est écrit ici, les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs, il lui emmena tous les malades, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ils ont assisté à un grand miracle, la multiplication des pains. Jésus les a obligés d'aller de l'autre bord. Ils ont été éprouvés. Ils ont passé l'obstacle. Et suite à cette épreuve, ils voient la gloire de Dieu. Ils assistent à des miracles. Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Jésus-Christ est celui qui a nourri les foules. Jésus-Christ est celui qui a marché sur les eaux. Celui qui a apaisé la tempête. Celui qui a déplacé la barque de façon instantanée. Parce qu'il est maître des lois physiques qu'il a lui-même créées. Jésus-Christ est tout puissant. Et quand dans l'épreuve nous sommes éprouvés, et quand Jésus vient de par sa présence, nous agenouillons pour le glorifier. Mais ensuite, il nous amène encore sur un terrain de miracle, du surnaturel, pour voir sa gloire. Parce qu'il est la volonté de Dieu de manifester Jésus-Christ dans nos vies, afin qu'il se révèle à nous. Peut-être avez-vous passé par la tempête du divorce. Je ne sais pas si vous avez déjà accompagné quelqu'un qui passe par un divorce. C'est terrible comme expérience. Peut-être avez-vous accompagné quelqu'un qui est malade. Peut-être avez-vous accompagné quelqu'un qui a des craintes, des peurs dans sa vie. Eh bien, Jésus-Christ peut faire la différence. Il prend soin de nous, il prie pour nous. Les statistiques en France. Les Français, nous redoutons le cancer et le sida à 93%. Nous craignons le chômage à 95%. On a peur de la drogue à 91%. De la pollution et des problèmes d'environnement à 87%. On est inquiet à cause de l'insécurité, de la violence à 87%. Et en ce moment, on est très inquiet sur la retraite. On est inquiet et même on s'inquiète d'être inquiet. Et on a toutes sortes de peurs. J'aimerais terminer en vous disant, mais quelle est votre peur? Où avez-vous peur? En quoi, même en qui avez-vous peur? Par rapport à qui? Ah ben, vous inquiétez pas. Jésus vous aime. Jésus est tout puissant. Jésus est présent. Avez-vous foi en lui? Est-ce que vous avez déjà mis votre confiance en lui? Et ce matin, êtes-vous prêt à renouveler votre confiance en lui? Si vous l'avez déjà connu. Prions, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir amenés à traverser la mer, la tempête. Merci de nous accompagner. Et je te prie, Père, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, que tu veuilles visiter son cœur. Et que cette personne puisse dire à l'instant, Seigneur, entre en moi, sauve-moi, donne-moi la vie, j'ai besoin de toi. Je te fais confiance. Je crois que tu es le sauveur du monde, le Fils de Dieu. Et si quelqu'un ne connaît pas encore notre sauveur, dites-lui cette prière. Seigneur, sauve-moi, entre en moi, donne-moi la vie.